Le journal de Nancy Chapuis.
Bonjour. Un ex-enseignant a été condamné ce matin pour acte d'ordre sexuel avec un enfant. La justice a délibéré sur ces faits commis en 2018 et 2020 à Delémont. Sur le banc des victimes, deux adolescents à la vie gâchée. Vincent Vermeil sort son premier livre. L'agriculteur de Seignelay-Gier présente Place d'Armes. Le député y raconte l'histoire d'un jeune qui s'engage contre la création d'une place d'armes dans les Franches-Montagnes. Un roman qui mêle faits historiques et fiction. Les spécialistes de la vitesse pourront à nouveau montrer leur talent. Les skieurs de la Coupe du Monde s'affrontent dès aujourd'hui à Beaver Creek sur une descente, un super G et un géant. Et les regards seront rivés sur Marco Odermatt, grand dominateur la saison dernière. Le soleil devrait se frayer un chemin à travers les nuages cet après-midi. Demain, la couverture nuageuse sera à nouveau bien épaisse et laissera échapper de fréquentes averses et même de la neige d'ici dimanche. L'affaire avait fait grand bruit fin 2021, début 2022. Un ex-enseignant du collège de Delémont a été condamné ce matin à 18 mois de prison, dont 12 avec sursis pour acte d'ordre sexuel avec enfants et personnes dépendantes. Il était visé par deux plaintes pour des faits qui remontent à 2018 et 2020. L'enseignant, âgé d'une trentaine d'années, était accusé d'avoir entretenu des relations sexuelles avec des jeunes garçons hors du cadre scolaire, un mineur de 15 ans ainsi qu'avec un élève qui fréquentait le collège de Delémont. L'homme qui a intégralement reconnu les faits avait déjà été condamné par le passé pour des faits similaires. Une affaire longue et douloureuse pour les victimes qui ont notamment dénoncé les erreurs et dysfonctionnements de la justice. Jérémy Pignard.
L'une des victimes n'a pas eu la force d'assister au procès. L'autre jeune homme, mineur de 15 ans au moment des faits, est venu pour faire face à celui qu'il désigne comme son violeur. Il sort son téléphone pour lire ce qu'il a préparé. « Je n'ai pas les mots pour décrire ce que cela me fait d'être là. » Il explique ne s'être pendant longtemps pas senti légitime pour porter plainte, peur de ne pas être compris parce que cela se passe entre hommes et révèle les failles de la justice. En 2020, le ministère public n'avait pas jugé utile d'avertir l'employeur après la première condamnation. D'autres faits se déroulaient pourtant durant cette même année. Fellation, masturbation, pénétration, jamais sous la contrainte physique, mais un enfant ne peut être consentant devant un adulte, poursuit le jeune homme, choqué de lire dans la presse qu'il s'agissait de relations consenties. La loi dit qu'avec un mineur, ce n'est pas possible, renchérit son avocat. L'enseignant dit énormément regretter et ne pas remettre en cause le ressenti des plaignants. Je n'ai jamais eu l'intention de faire du mal, mais le résultat est là quand même. À quelques mètres de lui, sa victime confie avoir essayé plusieurs fois de se suicider et éprouver un dégoût de la vie et un dégoût des autres.
Le juge David Cunha a déclaré dans son jugement qu'il espérait que les mesures prises par les autorités permettront à l'avenir d'éviter ce type de situation. La loi sur le personnel de l'État oblige désormais l'employé qui fait l'objet d'une poursuite pénale pour un crime ou un délit susceptible de porter préjudice à l'activité ou à l'image de l'État d'en informer sa hiérarchie. Le tribunal fédéral sanctionne une nouvelle fois la pratique jurassienne consistant à faire siéger comme juge assesseur des greffiers dans les tribunaux auxquels ils sont rattachés. L'affaire concerne un homme condamné en avril 2023. Dans les arrêts précédents, le tribunal fédéral s'était déjà prononcé sur des cas d'affaires similaires. Il a conclu que la pratique jurassienne n'était pas compatible avec le droit à un tribunal indépendant. Le budget de Haute-Saône est largement déficitaire. Les prévisions pour 2025 ont été présentées ce matin et affichent une perte de 750 000 francs. Les investissements, réduits au strict minimum, se monteront 1,8 million de francs. Ces chiffres seront soumis lundi au Conseil général. Et toujours à Haute-Saône, le projet de sous-voie à la gare de Glovelier est soutenu par le gouvernement jurassien. Une subvention de 200 000 francs a été accordée au syndicat intercommunal de la zone d'activité micro-régionale de la Haute-Saône en faveur de l'étude d'un avant-projet. Selon un communiqué transmis aujourd'hui, l'étude sera menée d'ici à l'été 2026 par les CFF sur mandat du syndicat. Cette liaison entre la gare et la zone d'activité réduira de 600 mètres la distance à parcourir à pied. Les bénévoles de Nez Rouge arpenteront les routes de la région dès ce soir. Les traditionnelles opérations de fin d'année démarrent ce week-end. L'association a pour but de ramener les gens chez eux, sains et saufs, avec leur propre véhicule. Le parrain de cette édition 2024 est le comédien Lionel Frézard. Il était l'invité de la matinale ce matin pour en parler. Le jurassien aime le concept d'aider les gens, mais il est conscient que de trouver du monde n'est pas une mince affaire.
Le bénévolat devient quand même malheureusement quelque chose d'un petit peu difficile, d'un petit peu délicat. Puis on me disait aussi que à Nez Rouge, les forces peut-être se fatiguent un petit peu, les forces en présence, les gens prennent un petit peu de l'âge, ceux qui sont là depuis très longtemps, et puis ils peinent un petit peu à renouveler le réservoir de bénévoles. Et puis c'est vrai que, par exemple, si je prends le 13, où c'est une soirée où il y a pas mal de soupers de boîtes, le 13, par exemple, dans la vallée, c'est une soirée où il manque encore pas mal de gens pour venir donner un coup de main, quoi.
Retrouvez un entretien complet sur rfj.ch. Une période houleuse de l'histoire du Jura et des Franches-Montagnes retracée dans un roman. Vincent Vermeil a publié son livre « Place d'armes » aux éditions D plus P. L'ouvrage s'intéresse au combat contre le projet de place d'armes dans le district Tenion, initié dans les années 60 et en mêlant faits historiques et fiction. Il a été présenté par son auteur, l'ancien maire de Seignelégier, aujourd'hui à la ferme Sous la Côte, un lieu extrêmement symbolique au début où débute le roman Vincent Vermeil.
Ici, en juillet 63, cette ferme elle a été incendiée de manière criminelle par le FLJ. Et puis en fait, c'est un peu là tout a commencé, puisque c'est à partir de ces années-là, 62-63, surtout suite à cet incendie, que s'est constitué un comité d'action contre la place d'armes aux Franches-Montagnes. Et puis que, parallèlement à ça, avec l'action du FLJ, ça a donné un peu une résonance nationale. Et puis que finalement, aussi bien la Confédération que le canton de Berne a commencé de se poser des questions par rapport à leur projet.
Alors votre roman mêle faits historiques et fiction. Comment ne pas s'y perdre ?
La fiction, c'est simplement la vie d'un jeune homme, un couple par la suite, qui aurait pu vivre tous ces événements. Et puis c'est le cheminement d'une vie. Donc le personnage arrive sur cet incendie et puis il est un peu happé par ce qui se passe. On ne met pas le feu à une ferme comme ça. Et puis après, de fil en aiguille, il devient militant, il devient membre du groupe Bélier et puis il suit toute l'histoire jurassienne, les grenadiers, Amoutier, le rachat des fermes ici, la reconstruction des fermes. Et puis par rapport à ça, lui, il est victime aussi de spéculation et puis il doit quitter sa terre.
Vincent Vermeil au micro de Nicolas Meusy. Le roman Place d'armes a été tiré à 750 exemplaires et est disponible dans plusieurs librairies jurassiennes. La question de l'animation Vieille Ville de Deux-les-Moines fait l'objet d'une rencontre entre les autorités communales, l'association Vieille Ville et les tenanciers de l'établissement La New Bay Riche. La séance s'est tenue à la suite de réclamations d'habitants par rapport aux nuisances sonores liées à l'organisation d'animation, selon le communiqué de presse transmis ce matin. Plusieurs pistes ont été évoquées pour améliorer la situation pour les riverains sans entraver les commerçants. Les autorités communales vont notamment demander la rénovation des portes et fenêtres qui laissent passer le bruit. Jean-Vital Joliat revient à ses racines. Le réalisateur jurassien qui vit désormais au Québec aura l'occasion de voir son premier long métrage, Roger mon frère, être diffusé à La Grange ce dimanche. À travers ce documentaire, il aborde la délicate thématique des proches aidants, des personnes qui souffrent de la maladie d'Alzheimer. À travers un documentaire qui relate l'histoire de sa grand-mère et de son grand-oncle, Jean-Vital Joliat a construit son début de carrière de réalisateur depuis son départ au Québec.
Je suis arrivé en 2011 à la base. Moi, je voulais juste faire un stage de 6 mois. Et comme on dit encore une fois au Québec, je suis littéralement tombé en amour de Montréal et du Québec. Et le temps passe vite, tout le monde le sait. Ça fait maintenant 13 ans que je vis au Québec. Je suis devenu Canadien en 2019. Et donc c'est ça, je suis arrivé au Québec, je vais faire un stage. Suite à ça, j'ai commencé à faire du montage, on m'a repéré. Et ensuite, il y a une compagnie qui m'a engagé pour réaliser un vidéoclip. Et là, pour moi, c'est symbolique ce projet-là parce que c'est la première fois que j'ai été payé en tant que réalisateur. Et donc, ça m'a donné le tampon de « je suis maintenant réalisateur ». Même si j'ai l'humilité de dire que dans mon métier, on apprend tous les jours. Il n'y a rien qui est jamais acquis. Même dans la vie, rien n'est jamais acquis. Même notre vie n'est jamais acquise. Donc, de fil en aiguille, j'ai commencé à me faire un peu connaître à travers le vidéoclip. En 2014, j'ai ouvert ma propre compagnie. Donc, je suis devenu travailleur autonome, indépendant. Freelance, comme on dit en anglais. Et c'est ça, donc maintenant, ça fait depuis 2014, donc 10 ans que je suis à mon compte et je vis du vidéoclip, du documentaire, de la publicité. Et voilà.
Et Jean-Vital Joliat était l'invité de la matinale. Retrouvez un entretien complet en vidéo sur rfj.ch. Une plainte contre l'Office fédéral de l'énergie. Elle a été déposée par des riverains de la centrale nucléaire de Leibstadt. Ils accusent la Confédération de déni de justice. Ils estiment qu'elle aurait dû étudier l'impact de la centrale sur l'environnement avant d'exploiter le réacteur à long terme. La centrale nucléaire de Leibstadt fête ses 40 ans le 15 décembre et passe ainsi dans un mode d'exploitation à long terme. Les taxes d'études vont tripler pour les étudiants étrangers des écoles polytechniques fédérales. Le conseil des EPF a communiqué sa décision définitive ce matin après une période de consultation. Les taxes augmenteront dès le semestre d'automne 2025. Elles passeront de 730 à 2190 francs par année. Ce triplement des taxes pour les étudiants étrangers est une volonté du Parlement. Les précisions de notre correspondante à Berne, Marie Vuillemier.
Le conseil des EPF avait d'abord décidé de ne pas augmenter les taxes des étudiants étrangers. Ils souhaitaient garder l'ouverture des écoles à l'international et leur capacité à attirer de nouveaux talents. Mais les finances fédérales sont critiques et le Parlement a coupé dans le budget de la formation. Dans la foulée, il a voté pour ce triplement des taxes afin de permettre aux EPF d'augmenter leurs recettes. L'association des étudiants de l'EPFL s'oppose vivement à cette mesure. Elle estime que l'attractivité et la compétitivité de l'institution risquent de diminuer. Des étudiants doués pourraient aller se former ailleurs alors que la Suisse fait face à une grave pénurie de main-d'œuvre. L'association indique que ce triplement des taxes va appliquer un filtre social privilégiant les étudiants avec davantage de moyens, ce qui n'est pas compatible avec les valeurs d'inclusivité et d'égalité des chances que prônent les écoles polytechniques. À l'EPFL, près de 60% des étudiants sont actuellement des étrangers venus étudier en Suisse.
Le Conseil des EPF a prévu une période de transition. Les étudiants étrangers déjà immatriculés pourront terminer leur bachelor ou leur master avant de voir leurs taxes augmenter. Les étudiants étrangers titulaires d'une maturité suisse ne seront pas concernés par cette hausse. La France est dans l'attente de la nomination d'un chef de gouvernement. Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui plusieurs dirigeants de tous bords politiques à l'Élysée. Le Parti socialiste s'est dit prêt à faire des concessions. Cette déclaration fait suite à la motion de censure déposée contre Michel Barnier mercredi. L'élection se fera sûrement après la cérémonie de réouverture de Notre-Dame de Paris demain. Emmanuel Macron y a convié de nombreux chefs d'État.
Vous écoutez RFJ, il est 12h26.
Sport. Les skieurs de la Coupe du Monde pourront enfin s'exprimer dans les disciplines de vitesse ce week-end. La station de Beaver Creek accueille une descente, un super-G et un géant d'aujourd'hui à dimanche. Au Colorado, les yeux seront rivés sur le duel entre le roi de la vitesse, le Nidwaldien Marco Odermatt, et son principal adversaire, le français Cyprien Sarrazin. Les deux athlètes avaient animé le cirque blanc l'hiver dernier. Florian Wolfer revient sur cette confrontation entre les deux hommes.
Le prodige nidwaldien Marco Odermatt a étendu son règne la saison dernière en remportant le classement général pour la troisième fois ainsi que trois petits globes. Le classement de la descente avait cependant été disputé jusqu'aux derniers instants par Cyprien Sarrazin. Les prémices des bonnes prestations du français avaient eu lieu il y a un an à Beaver Creek. Il avait terminé premier et deuxième des deux entraînements officiels avant l'annulation des courses. Il a ainsi l'occasion de finir le boulot sur la piste Birds of Prey. Marco Odermatt et Cyprien Sarrazin était déjà très proche lors des entraînements de cette semaine aux États-Unis. L'avantage est resté du côté du Suisse qui a terminé avec 1/100 d'avance sur le Français mardi et 8/100 lors du deuxième entraînement d'hier.
Le duel entre les deux hommes commencera dès aujourd'hui. Le premier départ de la descente de Beaver Creek sera donné à 19h. Arnaud Tendon pédalera pour une nouvelle équipe. Le cycliste jurassien de 22 ans endossera le maillot de la formation suisse Elite Fondation pour la saison prochaine. L'actuel champion de Suisse de cyclisme sur route Espoir n'avait pas vu son contrat être prolongé avec l'équipe Tudor au terme de cette année. Elite Fondation évolue un échelon inférieur par rapport à son ancienne formation. Le jurassien revient sur les raisons qui l'ont poussé à signer dans cette équipe Arnaud Tendon.
C'est une équipe suisse. J'ai vu le projet grandir et j'ai vu que le projet s'améliorait d'année en année. L'année prochaine, ce sera toujours une équipe du niveau national élite. Ce ne sera pas continental comme Tudor Développement, mais au niveau de la structure et de l'encadrement, ce sera du même.
Vous aviez dit à notre micro il y a quelque temps que votre objectif était de décrocher un contrat pro. Donc, ce n'est pas vraiment le cas hein, ici avec cette équipe. Est-ce que c'est une déception quand même ?
Oui, alors l'objectif, c'était de décrocher un contrat pro. Mais après, j'ai été en discussion avec quelques équipes professionnelles. Et au final, ça s'est pas fait. J'ai préféré quand même redescendre d'un niveau pour peut-être mieux rebondir. Et l'objectif sera surtout faire un gros début de saison pour directement se faire repérer par les équipes professionnelles, ce qui m'a manqué un peu cette année, mon début de saison, vu que j'étais blessé. Et c'est ça que je pense qui a un peu bloqué pour décrocher un contrat professionnel sur la fin de saison.
Des propos recueillis par Florian Wolfer, Arnaud Tendon retrouvera un autre jurassien au sein de cette équipe, le franc-montagnard Nolan Donzé roulera avec le même maillot la saison prochaine. Je vous remercie de votre écoute, bonne suite de journée.